chien, c'est un vrai con. Il fait chier tout le monde, toute la nuit à aboyer comme un cinglé.
Je hais les bêtes.
Quand on n'aime pas les bêtes, on vient pas se reposer à la campagne.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un petit peu fraîche quand même sur toute la France. Émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite avec aujourd'hui Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique. Et assisté de Stéphane Combe, c'est Caroline Lebossé cette semaine qui réalise l'émission. Pas mon ami Albert Houque du Maine-et-Loire. Alors maintenant, nous sommes dans cette actualité sur le front de l'urgence climatique qui ne passionne pas les foules mais qui se la prend dans les dents. Que se passe-t-il ? Déferlante malheureusement en Bretagne, le Luno s'est échoué sur nos côtes basques dans la barre de la Dour. Blackout électrique dans le navire, il n'est ni le premier ni le dernier, il y aura d'autres tempêtes en hiver. Mais tandis qu'un navire se fracasse, eh bien l'Organisation Météorologique Mondiale nous rappelait que 2013 était la sixième année la plus chaude depuis 1850 et que ce mois de janvier 2014 est le mois de janvier le plus chaud depuis 1900. Alors certes, ce sont les tendances qu'il faut regarder et non les chiffres pris isolément. Alors regardons, 13 des 14 années les plus chaudes mesurées depuis la révolution industrielle furent enregistrées ces 13 dernières années. Le niveau de la mer a monté en 10 ans autant que durant tout le XXe siècle. La multiplication des événements extrêmes est en pleine forme. Alors tandis que les élus verts nationaux se passionnent pour les sujets sociétaux, Bruno Dive de Sud-Ouest constate que notre président n'a pas plus la fibre environnementale que son prédécesseur. Et nous le savons, ce sujet dépasse bien évidemment très largement la France. Alors me direz-vous, que faire ? Eh bien, laissons-nous visiter par l'extase comme Nicolas Hulot. Sans doute lassé de voir l'humanité coincer désespérément la bulle sur le sujet, Hulot a dû se résoudre à demander de l'aide à un expert en la matière, à savoir le pape en personne. L'héritier de Saint-François d'Assise a une véritable sensibilité sur le sujet. Cette semaine, donc, Nicolas Hulot accompagnait le président de la République lors de sa visite officielle au Vatican. Et plutôt que de papoter de choses et d'autres avec le successeur de Saint-Pierre, il a tenté de le convaincre de s'engager sur le climat. Cause planétaire. Faute de parvenir à rallier les Chinois ou les Indiens friands d'un charbon toujours plus ardent, il en appelle désormais aux autorités religieuses. Un divin petit coup de pouce ne ferait pas de mal, tant il est certain qu'avec les hommes, on s'attend toujours au pire. Car dans ce contexte de crise économique perpétuelle, l'humanité n'a Dieu que pour les affaires courantes, reléguant l'irréversible à plus tard. Et Frédéric Danhé, que vous connaissez dans cette émission, dans son blog, nous dit « C'est consternant ». Nicolas Hulot, homme estimable et engagé s'il en est aujourd'hui à baiser la pantoufle du pape, du pop, en attendant celle de l'imam, du rabbin, pour espérer provoquer l'indispensable sursaut qui évitera à l'humanité de sombrer dans la casse climatique. En être à demander à l'irrationnel d'intervenir pour faire entendre raison aux laïcs qui nous gouvernent, n'est-ce pas quelque part un peu un aveu d'échec ? Oui, alors dans notre société qui est éduquée, qui est cultivée, qui est technoscientifique, qui est rationaliste, la science, le bon sens, l'intuition, le sens de l'intérêt général, les faits ne suffisent plus. Il faut téléphoner aux dieux. Vous savez, comme dans l'Antiquité, on priait les dieux pour éviter que les volcans explosent et que le ciel ne nous tombe sur la tête face à notre impuissance humaine à maîtriser les éléments. Dans les temps anciens, on n'avait pas d'autre choix que celui d'invoquer les dieux. C'était la seule solution entre les mains de nos ancêtres, par ignorance. Et nous n'avons pas cette excuse d'ignorance. Nous connaissons les causes humaines de l'accélération des phénomènes et les moyens de les résoudre pour limiter la casse en s'adaptant. Car même si ça chauffe, eh bien rien n'est cuit. Alors arrêtez un débat sur la famille est dans le fond beaucoup plus simple, vous avez des forces en présence qui sont claires, mais qui a envie de quitter sa maison, posée trop près des océans, de moins consommer quand on nous dit « il faut consommer ». L'écologie, bien comprise, on le sait, est une emmerdeuse depuis longtemps, mais tout à fait indispensable. Avant de rencontrer le Saint-Père, il est même possible que Nicolas Hulot ait envisagé de brûler des cierges. Et puis il s'est dit que c'était encore du carbone qui fichait le camp dans l'atmosphère, mais que décidément, on ne s'en sortait pas. D'où probablement cette sollicitation d'un Deus ex machina. Quitte à avoir un réchauffement climatique, faut-il pour autant qu'il ressemble à un enfer de Dante ? Eh bien l'avenir, que nous avons entre les mains, nous le dira. « Quatre éléments dans cette émission, quatre chapitres. Bah oui, c'est un véritable magazine. Nous irons en fin d'émission retrouver Jean-Marie Pelt et nous herboriserons avec lui du côté de l'Irak. Bah, c'était pas récent, il était jeune, mais c'est drôlement intéressant ce qu'il nous raconte. Nous ferons un petit tour du côté de Washington pour rencontrer la correspondante du Monde, Corinne Lenne, qui nous parlera de l'invasion des animaux sauvages dans les villes. Et puis, tenez, donc, on va rester en France, on va aller en Loire-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes.
Est-ce qu'on parle de l'État qui est garant de la légalité d'un projet, c'est-à-dire que ces services vont donner l'autorisation de travaux? Est-ce qu'on parle de l'État qui est aussi celui qui est en charge de l'évaluation environnementale d'un projet? Est-ce qu'on parle de l'État qui envoie les forces de l'ordre pour vider la zone? Et quand on le compare parfois à Notre-Dame-des-Landes au Larzac, le Larzac, c'était, on empêchait l'extension d'un camp militaire. Et avec l'arrivée des forces de l'ordre et l'opération César à l'automne 2012, on a amené les militaires à Notre-Dame-des-Landes pour évacuer la zone.
Vous l'avez compris, ça commence donc très fort. J'ai rencontré en fait des naturalistes en lutte qui ont réalisé une contre-expertise. Donc vous en saurez davantage dans ce bocage. Et puis on va faire un tour tout de suite du côté, nous allons rejoindre Nicolas Vanier que vous connaissez, qui de temps en temps quand même se dit bon, c'est très bien la France, mais moi je veux partir avec mes chiens de traîneau. Il s'est offert une odyssée sauvage. Il est parti du côté du Pacifique, côté Sibérie. Et puis il est parti pour 6000 km. Là, il en est à un peu plus de la moitié, on va le rejoindre aussi grâce à Stéphane Combe et qui va nous dire à quel endroit il se trouve précisément, Nicolas Vanier.
J'ai remonté côté chinois le fleuve Amour pour traverser ensuite ce qu'on appelle la Mandchourie, cette partie très au nord de la Chine, très sauvage, absolument magnifique. C'est la taïga Mandchou, à l'intérieur duquel règne le tigre de Sibérie, que j'ai malheureusement pas pu voir, mais dont on a pu voir quelques traces. Et puis, je suis ensuite redescendu vers la Mongolie pour traverser pendant une dizaine de jours cette immense steppe mongole. Ce que l'on ressent surtout ici, c'est une sorte d'abattement face aux nombreuses anomalies climatiques qui, cette année, ont vraiment bouleversé le paysage. Bon, on a beaucoup parlé dans le monde entier des inondations qui, à l'automne, ont rayé de la carte des régions entières, des villages entiers qui ont été submergés par les flots, des territoires entiers qui ont été des forêts ravagées par ces inondations absolument colossales. Suite à ça, il y a eu un hiver absolument insensé, avec des températures extrêmement et beaucoup trop douces en début d'hiver, avec ensuite très très peu de neige, le froid qui arrivait brusquement. Donc ici, tout le monde ressent, et plus particulièrement cette année, que le climat est devenu complètement fou. Et il y a bien évidemment de nombreuses conséquences, parfois dramatiques, à la fois pour les populations, pour les animaux, pour la flore, pour la faune, avec le permafrost qui, dans des zones entières, est en train de dégeler, ce qui occasionne, par exemple, un phénomène que les scientifiques ont appelé des forêts ivres. Ce sont des forêts où les arbres tiennent plus debout, tombent les uns sur les autres. Ce sont des changements de territoire d'animaux qui colonisent de plus en plus vers le nord des zones qui, où ils étaient étrangers, qui prennent la place d'autres. Ce sont des modifications de la faune, de la flore qui touchent les habitants ici. Il y a là dans le village où je me trouve un énorme problème cet hiver qui est lié au fait que les habitants depuis des siècles ont pour habitude d'être liés au reste du monde par un fleuve qui devient une route l'hiver. Ce fleuve a gelé beaucoup trop tardivement cette année, avec plus de 5 semaines de retard, ce qui est absolument colossal. Et donc, il est absolument impraticable à tout véhicule, que ça soit à moto, en 4x4, en voiture, alors même que ça constitue naturellement une voie de déplacement. Et donc, le village se retrouve un petit peu coupé du monde, doit faire appel à des liaisons aériennes pour être ravitaillé, ce qui a des conséquences économiques énormes. La neige qui généralement tombe au mois d'octobre, novembre et début décembre n'est pas tombée en neige, elle est tombée en pluie parce que la température était très très douce à ces mois de début d'hiver, et donc il y a des accumulations de neige qui sont extrêmement faibles. On n'a jamais vu ça dans le village où je me trouve actuellement, on n'a jamais de mémoire d'homme vu aussi peu de neige, ce qui va avoir des conséquences très 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 lourdes pour la flore qui, pour lequel la neige est un manteau sous lequel la fleur est protégée des agressions du froid, des agressions du vent. Et donc, ça aura des conséquences pour, bien évidemment, pour la faune et pour les hommes ici qui vivent, comme on le sait, en Mongolie, d'élevage. Il y a 2 millions de personnes pour plus de 80 millions de têtes de bétail. Et donc voilà, partout, depuis maintenant, je dirais 5-10 ans, alors même qu'il y a 20 ou 30 ans, je ne ressentais pas, je vois partout les signes de ce qu'on appelle le changement, le réchauffement climatique.
Nicolas Vanier, à quoi ressemble une journée quotidienne de votre expédition? Comment ça se passe? Et quelle est la logistique qui est mise en place?
Il n'y a pas vraiment, c'est en ça que l'aventure est belle, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble, je dirais même qu'il n'y en a jamais deux qui se ressemblent. Tout dépend voilà, du trajet à parcourir, des conditions météo, de la forme des chiens, du vent. J'essaie généralement de rejoindre le plus rapidement possible les villages, les uns aux autres, pour pouvoir accorder dans ces mêmes villages un petit peu de temps de repos aux chiens, sachant que plus je voyage vite d'un village à l'autre, plus je suis léger, parce qu'encore une fois, l'ennemi du voyageur, c'est le poids, et j'essaie d'aller le plus vite possible en fonction un petit peu voilà des conditions, sachant que mes chiens, encore une fois, sont capables sur une bonne piste, sur une rivière bien gelée, sur des chemins que des forestiers peuvent suivre, des distances jusqu'à 100-120 km par 24 heures. Donc je dirais que ma progression ressemble un petit peu à celle d'un marin, sachant que moi, voilà, le vent, ce sont mes chiens et la météo.
Nicolas Vanier, vous connaissez également le Grand Nord canadien, où vous avez fait des expéditions en chien de traîneau. Quelles sont les différences notables entre l'Amérique du Nord et cette zone orientale de la planète où vous vous trouvez en ce moment?
La grande différence, ce sont les hommes. Moi, j'ai traversé de part en part le Canada, qui est aujourd'hui un désert. La forêt n'est plus habitée. Lorsque on tombe sur une petite cabane, c'est une ruine, les villages d'eux-mêmes. Aujourd'hui, les Indiens et les Inuits sont concentrés dans quelques villes, aéroports. La forêt est vide, la taïga est vide. Ce qui est extraordinaire dans un périple comme celui que je suis en train de faire, c'est qu'il y a des hommes, et notamment cette traversée de la Mongolie, et il ne se passe pas une journée sans que je croise une yourte, un homme à cheval qui, avec sa famille, ses chevaux, ses vaches, et pas dans une partie de ce territoire qui est habité. Voilà, c'est la grande différence. Le Grand Nord canadien est vide d'hommes. Je dirais que l'espèce en voie de disparition et qui a disparu, c'est l'homme. En Mongolie, il y a encore partout des hommes qui vivent ici, qui vivent sur les territoires, avec les territoires, et qui entretiennent encore une certaine philosophie de l'adaptation de l'homme à la nature. C'est en cela que la différence est la plus grande. Il me reste, à ce que j'entends, très très peu de batterie, donc si jamais ça coupe, excusez-moi, mais je n'ai pas la possibilité, là où je me trouve, de pouvoir recharger mes batteries, donc j'entends un bip-bip qui m'alerte que ça va bientôt être terminé.
Ben voilà, vous avez même avec leur gentille papate, là, les skis, les malamoutes, là, ça ne recharge pas les batteries, c'est comme ça. Donc il est parti le 21 décembre, je pense que Nicolas Vanier ne devait pas forcément aimer les fêtes de famille. Et puis donc on le retrouvera à la mi-mars et je pense qu'on fera de nouveau un petit appel avec lui au milieu de ce périple. Nous allons dans quelques instants partir à Notre-Dame-des-Landes et on va parler de nature dans ce lieu vaguement polémique.
Mas o ponto mais
choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. C'était bien ça, c'était Rodrigo Amarante, Mana. Et à mon avis, c'est pas exactement la musique de Loire-Atlantique où nous nous trouvons.
On est en pleine zone de bocage, on est auprès de la ferme. Voilà, là on va aller sur un site.
Ouais. Alors où sommes-nous précisément?
Alors là on est au lieu dit Les Domaines.
Ouais.
Et en face Les Domaines, enfin sur la ferme des Domaines, il y a le lieu dit La Vacherie où c'est le QG des opposants. C'est un hangar agricole qu'on a transformé en une petite salle de réunion et puis salle de spectacle si besoin est. Quoi. Donc, ouais.
Alors ça a commencé avec votre père en fait, il y a très longtemps, il y a quoi? Il y a une cinquantaine d'années, Notre-Dame-des-Landes?
Oui, à peu près. Il m'a tout le temps dit ça a commencé quand tu es né. Donc je suis né en 62, c'est dans les années 62-65 qu'on a entendu parler au tout départ. Et c'est en 74 que vraiment ça a évolué avec la création de la ZAD, zone d'aménagement différé,
ouais.
Qui depuis est transformée en zone à défendre.
Alors cet homme est un peu connu malgré lui, il s'appelle Sylvain Fresneau, c'est un des agriculteurs depuis très longtemps, donc au cœur de Notre-Dame-des-Landes, au milieu de ses 180 hectares, bien qu'ils disent je ne sais pas exactement où je dors, parce qu'aujourd'hui il y a 120 hectares qui appartiennent à AGO, autrement dit Aéroport du Grand Ouest, donc nous sommes en Loire-Atlantique, vous l'avez compris. L'ADECA, c'est le groupement d'agriculteurs, c'est la plus vieille association d'agriculteurs. Depuis, vous avez un certain nombre de collectifs qui se sont créés, vous avez le collectif des pilotes, vous avez le collectif des élus, et le collectif des naturalistes en lutte. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ce sont des gens qui sont bénévoles, qui sont d'ailleurs complètement apolitiques et qui se sont dit on va faire une contre-enquête. Je vous parlerai de ce qui s'est passé régulièrement là tout à l'heure. Il faut dire que le Conseil National de la Protection de la Nature a recalé l'étude de Biotope, qui est un très gros cabinet qui fait plutôt bien son boulot. Ils se sont dit écoutez que ce lieu méritait plutôt 2 ans d'études plutôt que quelques mois. Voilà, alors c'est jamais très simple. Et donc on va marcher avec les différents naturalistes et Sylvain Fresneau au milieu de ce chevelu. Le chevelu, c'est l'ensemble des petits ruisseaux, c'est l'ensemble de ces cours d'eau qui sont naissants. Ils en sont donc à 1 an de travail pour répertorier. Ce ne sera jamais exhaustif, que ce soit le cabinet Biotope ou bien ces naturalistes aussi en lutte. On ne peut pas tout faire, c'est évident, mais on peut quand même avoir des différences d'appréciation qui serviront donc plus tard. Nous allons dans ce bocage. Vous prenez les bottes, je crois que vous l'avez compris. Il y a un peu d'humidité avec Sylvain Fresneau et ses naturalistes en lutte.
Ce paysage est fait de landes et de terrains qui conviennent complètement à la culture fourragère, c'est-à-dire au maïs et à l'herbe. Ce n'est pas des zones pour faire des céréales. Et donc le maillage a été fait en fonction de ça, en fonction de l'élevage bovin. Et sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, qui a été défrichée, ça fait que 2 siècles, donc c'est assez récent.
Oui.
Il y a un maillage bocager très intéressant et qui convient très bien à l'élevage.
Alors combien vous êtes maintenant d'exploitants ici?
Sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, il y a 22 exploitants.
Il y a des petits là?
Il y a des petits fauves,
ouais.
Non, les petits, c'était anglais.
On avait fait la traduction, oui, parce qu'ils ne sont pas très fauves.
Ah non, non.
Ouais. Alors, combien d'expropriations aujourd'hui? Combien d'agriculteurs ont accepté? Combien n'ont pas accepté sur cette zone vaste, on va dire, de 1600 hectares?
En fait, il y a plusieurs types d'expropriation. Les critères, ce sont les surfaces impactées. Il y a les plus de 35% des surfaces ou des bâtiments agricoles. Il y a moins de 15 à 35 et moins de 15.
Ouais.
Et donc, dans les moins de 15, les gens ont négocié avec Vinci parce que ça ne représente pas beaucoup de leur surface. Et donc, ils ont négocié, mais ça ne met pas en péril leur exploitation. Entre 15 et 35, il y en a beaucoup qu'on a négocié et certains ont refusé l'argent d'AGO,
oui.
Mais ils sont quand même expropriés. Et les plus de 35 dont on fait partie, on était 9 et sur les 9, il y en a 2 qui ont accepté la négociation. À savoir, il y en a 2 qui arrivaient en retraite et le troisième, lui, il est éleveur de chiens. Et avec les forces de l'ordre l'année dernière et aussi les squatteurs qui ne supportaient pas les chiens fermés, eh bien... il a été obligé d'arrêter et de continuer son activité sur une commune.
Oui.
Euh,
Alors Sylvain Frélo, pourquoi profondément on est contre cet aéroport? On voit ce lieu, c'est vrai que c'est assez inouï, quoi. Enfin, on est dans un lieu de bocage qui est superbe, avec une agriculture qui se maintient. Pourquoi est-ce qu'on est contre?
Parce qu'il n'y a pas besoin de faire un autre aéroport en France, il y en a déjà 150, alors qu'il n'y en a que 45 en Allemagne pour le même nombre de passagers. Et puis les aéroports, quand on voit les surfaces, c'est plutôt entre 300 et 400 hectares. Et là, on voudrait prendre 1650. Quoi. Ouais. J'ai dit, arrêtons de gaspiller des surfaces agricoles. Ouais. Il n'y a pas besoin. Nantes Atlantique, pendant le débat public, et ça a bien été prouvé qu'il était loin d'être saturé. Donc il n'y a pas besoin d'en recréer un autre.
Alors Sylvain Frénaud, parlez-nous quand même de ces haies. Parce que sur cette zone de Notre-Dame-des-Landes, donc plus de 1600 hectares, il y a à peu près 180 km de haies. Vous en avez combien?
Sur la ferme, on a 180 hectares et on a 55 km de haies. Quoi.
Ouais.
Donc c'est aussi du travail, c'est aussi de l'entretien. J'ai 50 ans, j'ai jamais utilisé de pesticides, de débroussaillants pour entretenir les haies. Ouais. On le fait ou avec une machine, une élagueuse, ou on le fait quand on abat du bois, et bien on fait une coupe à blanc tout en gardant les surannées, quoi, les chênes qui sont les plus beaux et qui méritent d'être gardés en bois d'œuvre.
Et ça garde la biodiversité, ça garde aussi les nichés, les animaux?
Voilà, ça garde les nichés. On est tous les deux, on est trois associés, mais on est deux chasseurs. Et c'est aussi pour ça que, pour la biodiversité, pour le gibier, on veut garder les haies. Et c'est aussi un état d'esprit. Pourquoi mettre des produits dans les haies alors qu'on peut l'entretenir différemment, quoi. Donc on met un rang de barbelés au bord des haies, et puis ça garde nos animaux. Les animaux sont habitués, nous aussi, et puis ouais, ça, tout va bien.
Alors je vais me tourner vers des naturalistes qui nous accompagnent, des naturalistes en lutte, et pour découvrir un peu mieux ce paysage. Alors Olivier Swift, vous êtes avec nous. Quelle est votre spécialité, vous, Olivier?
Batrachologue, les amphibiens essentiellement.
Oui, alors là, évidemment, ça se régale parce que rien qu'au son que vous entendez, avec nos belles bottes, on peut se dire que c'est un coin amphibien. Vous avez fait avec un collectif de 200 naturalistes, j'allais dire une contre-étude, parce qu'il y avait donc une étude d'impact sur les animaux, sur la biodiversité qui a eu lieu. Puis vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un léger décalage. Pourquoi vous avez fait ça?
En fait, on voulait avoir un aperçu de ce qui a été fait au niveau donc de l'étude d'impact.
Ouais.
Par exemple, les insectes, hein, on n'a pas encore fini, on est loin d'avoir fini, mais dans cette première année, on a réussi à analyser environ 1014 espèces contre 71 dans le dossier en fait initial. Au niveau des amphibiens, on a rajouté, par exemple pour le triton marbré, plus de 40 mares de nouvelles, 40 sites de reproduction nouveaux. Ouais. Pour les oiseaux, on a plusieurs espèces nouvelles, notamment des hivernants.
Puis on l'entend, Sylvain Frénaud, vous connaissez ce lieu par cœur, il y a énormément de rivières, de chevelus.
Voilà, sur la ferme qui fait 180 hectares, on est à trois associés, il n'y a pas un ruisseau qui vient de chez le voisin. Quoi. Tout part de chez nous, de notre ferme. Et on est vraiment au sommet, on est à 78 mètres, donc c'est pas énorme par rapport à...
Oui, il n'a pas besoin d'un masque à oxygène pour y arriver. Oui,
on voit que tout le chevelu part d'ici. Quoi. Il y a des sources et ça part de là, le chevelu, il est partout sur l'exploitation, quoi. Et on entretient les cours d'eau, on entretient les haies. C'est aussi ça qui fait le drainage aérien, quoi. Il n'y a pas de drainage chez nous, dans la ferme.
Alors ça, c'est un bonheur, Nicolas Chenaval, aussi pour les loutres et un certain nombre d'animaux, ce lieu.
Alors en effet, ouais, c'est le paradis pour pas mal de mammifères, ce lieu, avec des zones humides comme ça. C'est notamment le paradis du campagnol amphibie qui est présent sur toute la zone est également...
Il a intérêt à être amphibie, un campagnol ici, oui.
Comme vous dites, il a intérêt à être amphibie, en effet. C'est également le paradis pour la loutre d'Europe et c'est un exemple typique de tête de bassin par laquelle la loutre va pouvoir passer d'un bassin versant à l'autre, par exemple celui de la Vilaine à celui de l'Erdre, pour rejoindre et coloniser d'autres milieux favorables.
Oui, c'est son petit corridor naturel, quoi.
Exactement. Ouais. Typiquement par le genre de petit fossé par lequel elle va passer d'un bassin versant à l'autre.
Ah, ils sont déjà pas là. Ça avance partout, là, un naturaliste, c'est toujours effectivement le nez comme votre chien, là, pratiquement, effectivement, la truffe au sol pour renifler, voilà. Alors Christophe, là, nous sommes en fait sur, entre guillemets, une éventuelle future piste de l'aéroport là, ou...
Là, on est au bout de la seconde piste, ouais. Qui devrait aboutir justement sur la ferme de Sylvain. Ouais. Je crois que ce qu'on oublie ici de dire, c'est qu'on est sur un espace naturel qui existait il y a une cinquantaine d'années. Un maillage de haies, de bocages, de prairies naturelles humides, un chevelu de cours d'eau qu'on ne retrouve quasiment plus sur le bassin de la Loire et en Bretagne. Je crois que c'est ça qu'il faut rappeler. Donc on peut le comparer à une nature ordinaire, mais qui devient exceptionnelle par la disparition dans les autres endroits de France et de Navarre. C'est ouais. Ça qui est l'enjeu ici. Et quand on est sur des chevelus de têtes de bassin versant, du début de nos rivières françaises, on est sur des lieux qui ont disparu. C'est des rivières qui sont quasiment des rivières de première catégorie, avec des eaux courantes, des eaux sans polluants, avec une agriculture respectueuse de l'environnement. C'est le modèle agricole qu'on aimerait recouvrer aujourd'hui dans les fameuses réformes de la politique agricole commune. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas uniquement une question d'aéroportuaire, c'est aussi de modèle économique, agricole, développement durable dans les bons sens du terme.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Je suis la main qui te touche. Oh, le doigt qui se cache. Je suis l'amant sur ta bouche. Un caillou sans attache. Sur ta bouche, une tache que tu caches. Je suis l'amant qui se couche, une goutte que tu touches, un aimant qui s'accroche.
C'était un petit cours de physique amoureuse, en fait, signé Basse-Base, avec l'aimant, non pas comme le lac, mais vous l'avez bien compris, A-I-M-A-N-T. Nous poursuivons ce reportage au sein de Notre-Dame-des-Landes. Je vous parlais de Biotope, qui en fait est un gros bureau d'études, hein, qui est vraiment qui est connu, qui fonctionne bien. Le problème, c'est pas qu'ils ont fait du mauvais boulot, loin de là. C'est pas des gens qui sont malhonnêtes. Ils ont répondu aussi à un cahier des charges, c'est-à-dire que lorsque vous êtes payé pour tant de jours, pour tant de personnes sur un lieu, bah évidemment que vous oubliez inévitablement des espèces. Si vous allez, si vous êtes en plein été, vous verrez pas la loutre. Évidemment, en hiver, déjà que c'est un animal qui est très difficile à voir, eh ben vous avez davantage de chances de la voir. Si vous ne compterez pas de poissons, si vous êtes dans un assec, évidemment, au cours de l'été. Donc, c'est aussi pour ça, en fait, que ces naturalistes en lutte se sont mis au travail, donc depuis un an, je le rappelle. Et puis, vous avez là-dedans, vous avez aussi bien des associatifs, mais aussi des universitaires, des scientifiques. Et donc, on va poursuivre avec Guy Bourliès, qui lui est ornithologue. Et on va voir qu'il y a vraiment cet équilibre qui se fait entre l'activité humaine, le bocage et la nature, un véritable milieu pour les oiseaux.
Ça veut dire qu'il y a un milieu, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un milieu agricole aussi. C'est-à-dire que s'il y a autant de populations d'oiseaux qui nichent ici, c'est parce qu'il suffit de regarder autour de nous, il y a des haies qui sont très diversifiées, très larges, tout en continuité les unes avec les autres, et un milieu, prairie permanente, qui est aussi très bénéfique à la reproduction des oiseaux. Donc c'est l'équilibre qui se fait depuis des années, des décennies, entre l'activité humaine qui maintient ce type de bocage, et c'est le maintien de ce type de bocage qui fait qu'on a un site intéressant pour les oiseaux. C'est pour ça qu'il y en a autant, en quantité et en qualité.
Pourquoi vous êtes des naturalistes en colère, des naturalistes atterrés, comme on a des économistes, enfin là vous êtes des naturalistes en lutte. Pourquoi vous avez eu envie donc de faire vous aussi votre propre étude d'impact?
Parce qu'il nous a semblé, connaissant le site depuis quelques années quand même, il nous a semblé que les premières études réalisées par Biotope réduisaient terriblement le milieu à ce qu'eux-mêmes avaient décidé de réduire en fait. Ils ont décidé que ce site était une nature tout à fait commune et qu'effectivement, si on la faisait disparaître, ça n'empêcherait pas la planète de tourner. Et nous, ça nous semblait un petit peu réducteur, voire beaucoup réducteur. Donc on a tenté de rééquilibrer les choses en faisant une espèce de contre-expertise, entre guillemets, pour essayer de contrebalancer ce qui a été dit. Et en fait, quand on a vraiment mis le paquet, qu'on a mis suffisamment de gens et suffisamment de temps, on s'est rendu compte que même ça allait même au-delà de ce qu'on pensait. Nous-mêmes, au départ, en étant sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on a trouvé des choses absolument exceptionnelles et que c'était encore plus intéressant que nous ne le supposions.
Olivier Swift, depuis un certain nombre d'années, maintenant, on parle de compensation. C'est-à-dire que j'ai le droit de détruire à condition de pouvoir compenser. Hein. Je fais très simple, mais on a un endroit qui fonctionne bien d'un point de vue écologique. On va le détruire pour des questions donc, d'aménagement du territoire. Et puis, on va essayer de faire refonctionner un milieu à peu près analogue ailleurs, à côté, loin.
Mais par exemple, l'exemple classique, c'est les mares. Donc, une route passe sur une mare. Donc, en fait, on va compenser en recréant une mare ailleurs ou plusieurs mares pour compenser en fait, la mare donnée. Pouvoir se dédouaner finalement de la destruction occasionnée en recréant quelque chose ailleurs ou en protégeant des zones en fait existantes.
Et aujourd'hui, on le sait, en France, on a perdu plus de la moitié des surfaces de zones humides depuis un siècle. Donc les zones humides, ça ne court pas les rues, c'est un enjeu important de conservation. Les grands projets d'aménagement aujourd'hui, pour compenser la perte environnementale, ils ne trouveront jamais ces surfaces. Et donc ils tentent aujourd'hui d'inventer un système de compensation, c'est-à-dire que la comparaison que je prends très souvent, c'est de dire pour des raisons X ou Y, si nous devions détruire le château de Chambord, parce qu'on y fait passer une autoroute ou une centrale nucléaire, etc. Et que pour le compenser, on aille dans le château voisin, qui est le château de Chenonceau, où on y refait les peintures, on y refait la toiture, et on dit que c'est une compensation. Inévitablement, on se rend bien compte que ce n'est pas une compensation. Et bien là, aujourd'hui, le système de compensation environnementale, il est exactement le même. À Géo-Vinci, l'État veut compenser à proximité, mais on sait très bien qu'ils ne trouveront pas d'espace et qu'ils vont aujourd'hui dans le parc naturel régional de Brière pour aller chercher des espaces à compenser.
Alors ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est sur un laboratoire de la compensation, et c'est ce que vous dites.
C'est-à-dire
que
si... Oui, c'est une méthode expérimentale qu'ils veulent mettre en place aujourd'hui, et on sait que si ça se produit ici à Notre-Dame-des-Landes, ça sera partout ailleurs en France, et ce sera la fin de la protection de la nature en France, ce sera la fin de la préservation de l'eau également en France, c'est-à-dire ces 40 années d'évolution du droit de l'environnement, du droit de l'eau, qui sera bafoué en l'espace de quelques mois et de quelques années.
Alors que dire maintenant aussi, on va dire, de l'expertise des bureaux d'études en quelque sorte?
On connaît les cahiers des charges de ce type d'études. On le sait bien, sur un milieu aussi unique, complexe que le bocage humide de Notre-Dame-des-Landes, c'est probablement plus de 2 années d'études qu'il aurait fallu faire. S'il y avait un endroit où il ne fallait pas faire un aéroport en Pays de la Loire, c'était ici.
Alors, il y a aussi quand même le problème de l'eau, on le voit, c'est quand même l'élément, on va dire, moteur de ce paysage. Qui dit eau dit aussi inondation. Donc on va bien sûr bétonner si cet aéroport doit voir le jour. Et on va vous dire, oui, il y aura des bassins de rétention qui vont exister. Mais quand même, ça casse aussi une dynamique naturelle.
Ça casse une dynamique naturelle et ça a été très très bien décrit. On est quand même sur 98% de zone humide sur l'emprise de l'aéroport. On sait que ces têtes de bassin versant jouent un rôle d'éponge. C'est-à-dire qu'elles gardent l'eau l'hiver, on le voit bien ici, par ce que l'on parcourt ce matin. Elles restituent cette eau progressivement au printemps et l'été. Vous imaginez bien que si on supprime cette éponge, cette eau va se déverser plus rapidement vers l'Erdre et vers la Vilaine. Donc accentuer des phénomènes d'inondation, peut-être pas tous les ans, mais quand il y aura une inondation moyenne ou exceptionnelle, eh bien le risque sera accentué.
On arrive. Nicolas Chenaval, on est rentré dans un bois, dans une forêt là.
C'est... Ouais, alors là, nous voici dans la forêt de Roanne, qui est le plus gros boisement en fait de la zone de Notre-Dame-des-Landes.
Ouais. Et le fameux bois dans lequel nous sommes, il passera à la tronçonneuse, inévitablement.
Alors il passera à la tronçonneuse, on est en pleine zone de bitumage des pistes là, donc il passera à la tronçonneuse, c'est clair et net. Et les chauves-souris avec. Donc c'est-à-dire que, encore une fois, là, si on détruit la nature, on ne pourra pas la compenser, puisque les centaines de bestioles qui sont en ce moment hibernées, mais qui seront aussi là, présents à l'été, durant toutes les saisons de l'année, les chauves-souris sont présentes dans les arbres, ouais, quel que soit leur cycle biologique. Et donc, quelle que soit la période à laquelle on rase cette forêt, on la rasera aussi les chauves-souris avec, et donc des centaines d'individus, puisque ce boisement fait une centaine d'hectares. Il y a donc plusieurs centaines d'individus chiroptères qui sont présents dans le boisement.
Guy Bourdiès, parlez-nous s'il vous plaît quand même d'un oiseau qui est superbe, qui est la huppe. Alors elle est pas là actuellement. Hein,
Non, elle n'est pas encore arrivée, même si le printemps a l'air de vouloir faire une tentative au mois de janvier. Oui. Ça n'empêche qu'elle arrivera au printemps, au mois d'avril, et qu'elle s'installera ici dans les vieux arbres. C'est ça qu'elle a besoin. Et en fait, on se rend compte que cet habitat que sont les vieux arbres, pas simplement les arbres têtards comme on fait ouais, dans l'estuaire de la Loire, mais les vieux arbres qui ont des cavités, sont intéressantes pour beaucoup d'espèces, les chauves-souris évidemment, mais la huppe vit et se reproduit, pose ses œufs dans les cavités, dans les gros arbres. Donc il faut absolument que les bocages favorables à cette espèce tiennent pendant des années et des années. Un vieil arbre comme on l'a dit plusieurs fois, ça dépasse largement les 40, les 50, les 60 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'ils sont intéressants.
Sylvain Frénaud, s'il devait y avoir un aéroport ici, enfin ça, pour vous, ça casserait quoi profondément?
Tout. Ça casserait 5 générations de Frénaud ici, ça casserait ma vie, parce que moi c'est mon combat de la vie et je veux le mener jusqu'au bout. Et après, à 55 ans, rebondir, ce sera très pénible. Alors on n'imagine même pas changer. C'est toi, Annie.
Merci à Jean-Marie Dréan, à Guillaume Moiselet, à Nicolas Chenaval, Guy Bourliès, Olivier Sweet, et puis donc à Sylvain Frénaud, on le comprend bien, donc au cœur de cette protection. Alors c'est pas la fin de la protection de la nature en France, non, mais en tout cas ce serait une entorse assez intéressante, entre guillemets, parce qu'en fait on a fichu la paix à ce lieu pendant 50 ans, parce qu'il y avait cet aéroport, cette épée de Damoclès en quelque sorte, ou un bienfait pour ceux qui veulent cet aéroport, et ce site qui n'a rien, en fait on est dans la biodiversité ordinaire, donc c'est qu'elle n'a rien d'exceptionnel dans l'absolu, mais le tout réuni, on l'a entendu, le maillage fonctionne et en fait une véritable relique bocagère. Alors que va-t-il se passer, on va dire, demain ? Potentiellement, bah, c'est vrai qu'on peut démarrer les travaux. On peut très bien le faire. Politiquement, ça ne semble pas être complètement le bon moment. Alors cette contre-expertise va servir à alimenter donc, tous les recours juridiques nationaux et européens. Et il y aura aussi une grande manifestation qui aura lieu le samedi 22 février. Ce sera donc à Nantes. Donc c'est un véritable débat de société, on le sait. C'est pour ça que ça a focalisé beaucoup, beaucoup d'attention entre une politique d'urbanisation, d'aménagement du territoire, très peu d'un aéroport dont on a forcément besoin. Même les pilotes le disent, même d'ailleurs aussi en off, certains dirigeants de Vinci le disent. Mais c'est un projet d'aménagement de territoire et de grands travaux qui sont derrière. Merci à tous.
Le rabier recoule le moineau, Pépi caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou hue, râle la panthère et craque la grue. Toi, 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 sois belle et tais-toi. L'éléphant barrette la jument et nie ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coince, piaule le poulet, le corbeau croince, cajole le jet. Toi, 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 sois belle et tais-toi. Le cerf brame, l'âne brêle le lion, rugit, cancane, la canne, le taureau mugit. Le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte, siffle le serpent. Toi, 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 sois belle et tais-toi.
Des informations sur le site franceinter.fr, CO2 Mon Amour, aussi pour vous, pour discuter entre vous, donc n'hésitez pas à laisser vos messages. Nous avons fait la Mongolie en chien de traîneau, la Loire-Atlantique en avion, oui, pas complètement. Maintenant, ça va être l'Irak à pied, mais oui, c'est ça, CO2 Mon Amour. Bonjour Jean-Marie Palt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors nous feuilletons cet ouvrage qui s'appelle « Carnet de voyage d'un botaniste » édité chez Fayard, et ce sont vos souvenirs, je ne vais pas dire entomologiques, parce que ça, il y a déjà M. Fabre qui l'a fait, mais en tout cas, botaniste. On l'a saisi. Nous allons quitter l'Iran et nous allons en Irak.
Nous allons en Irak, oui. Alors, entre l'Iran et l'Irak, il y a une énorme différence géographique parce que nous quittons l'Iran en traversant la chaîne du Zagros, qui est une chaîne de montagnes qui va du nord au sud de l'Iran, qui aboutit au golfe Persique. Et il faut donc descendre en lacets, une route qui était à l'époque encore une piste. Et alors, on s'aperçoit qu'à chaque lacet, il fait plus chaud qu'au lacet d'avant. Et que tout d'un coup, vous vous demandez comment ça sera en bas. Vous arrivez en bas, c'est le 15 août, il fait 50 degrés pétant. Oui, on n'a pas l'habitude de ça, nous. Non. Et puis on part, alors cette fois-ci, c'est tout plat, c'est la Mésopotamie. On part et on arrive, parce qu'on était parti d'Ispahan le matin à 4h du matin. Et on arrive à Bagdad à minuit pétant, avec une seule idée, c'est de prendre un bain.
Alors qu'est-ce que l'on rencontre donc dans ce pays? Parce que vous êtes là pour herboriser quand même.
Eh bien oui, j'herborise, c'est-à-dire que je me claquemure dans ma chambre d'hôtel et je ne mets pas les pieds dehors toute la journée.
Oui.
J'ai pas le courage. Et le soir, je me dis, maintenant je vais sortir. Maintenant, à la brise du soir, pensez-vous, c'était pareil. Les nouveaux 50 degrés, c'était affreux. Alors j'ai voulu aller au Tigre.
Le fleuve.
Qui est le grand fleuve, qui était derrière notre hôtel, il y avait une palmeraie. Et je voyais le fleuve derrière la palmeraie. Donc, je m'engage dans la palmeraie, je vais vers le Tigre.
Et comme vous n'avez pas l'âme d'un honteur.
Et tout d'un coup, je me suis senti pas bien parce que j'ai vu des ombres qui circulaient. Ah. Et puis, j'ai vu que ces ombres venaient vers moi passant d'un arbre à un autre.
Moi, j'ai résumé l'affaire. Vous avez failli y passer. Hein.
Oui, je crois. Oui. J'ai pris mes jambes à mon cou, comme on dit, et j'ai couru à toute vitesse à l'hôtel. Je suis rentré épuisé, essoufflé, mais je pense que j'étais en danger. Oui. Parce que nous avons remarqué dans tous les voyages que nous avons faits, de tous les voyages que j'ai faits, c'était le seul pays qui était vraiment très xénophobe. On le sentait très bien. Quand on était arrêté par les soldats qui étaient sur leur char, on sentait très bien que nous étions les ennemis et perçus comme tels. Très ravi de quitter Bagdad le lendemain matin, j'ai rien vu de Bagdad du tout. Nous partons vers l'ouest, nous traversons l'Euphrate, elle est toute dorée, il est 5h30 du matin, elle miroite au soleil levant, tout ça est doré, c'est très beau, oh que c'est beau. Et à côté de l'Euphrate, il y a un champ plein de fleurs. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Ah, je dis à Lucien, Lucien, arrête, il faut que j'aille regarder ces fleurs. Lucien avait une patience angélique, parce que rien n'est pire que de voyager avec un botaniste, évidemment, c'est insupportable, il s'arrête tout le temps. Je descends dans le champ, j'ai jamais vu ça, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors vous faites le travail d'un botaniste, et racontez-nous, comment faites-vous?
Ben je regarde les fleurs, la forme de la fleur, le nombre d'étamines de la fleur, puis je vois que c'est une fleur qui ressemble beaucoup aux fleurs de digitales qui sont abondantes dans les Vosges et dans le Massif central, mais qu'elles sont jaunes. Donc je me dis, c'est une plante de la famille des Scrophulariacées, qui est donc la famille de la digitale. Ou alors c'est une famille affine. Voyons, quelles sont les familles affines? Il y a les Pédaliacées. Ah, j'ai dit, c'est le sésame, Pédaliacées. Bon, j'avais repéré ma plante. C'est le fameux sésame qui donne des graines. Qu'on cultive, écoutez bien.
C'est oléagineuse.
Oui, bien sûr. Oui. Qu'on cultive en Mésopotamie depuis plus de 4000 ans. C'était une des plantes essentielles de l'époque où la Mésopotamie n'était pas encore devenue un semi-désert. Maintenant, entre les fleuves, le Tigre et l'Euphrate, c'est pas un désert, mais dès qu'on quitte les fleuves, c'est un immense désert. Et donc j'étais très content, là, en photographier bien sûr la plante, d'avoir découvert cette plante que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue, pas même dans un jardin botanique. Je ne connaissais pas le sésame.
Alors qui est très bonne en diététique. Hein.
Très, oui, parce que c'est une huile qui a beaucoup d'insaturés, d'acides gras insaturés. Et puis on l'utilise, on le met aussi sur le pain là-bas, on l'utilise comme condiment. Il rentre un peu dans l'alimentation par tous les bouts, le sésame. Très, très utilisé. Nous quittons le champ de sésame et crac !
Ouvre-toi.
Immédiatement dans le désert. Et alors là, c'est un vrai désert. C'est le grand désert du nord de l'Arabie et du sud de la Syrie que nous allons traverser d'un bout à l'autre pour aller à Jérusalem. Mais il y a 900 kilomètres. Donc on est parti très tôt le matin. Il y a 900 kilomètres. Alors on s'engage dans ce désert. La route est goudronnée, tout droite. Tout droite, tout droite, tout droite, tout droite. Mais il n'y a rien. J'arrête pas le Lucien parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de plantes. Puis nous arrivons à Roudba, point central entre, disons, Jérusalem et Bagdad. Et là, nous voyons quelque chose, le fameux grand pipeline dont a parlé Hergé dans Tintin au pays de l'or noir. Et nous suivons le pipeline. Et il y a bidon 1 à 100 km, bidon 2 à 200 km, bidon 3, c'est des stations de repompage. Et puis tout d'un coup, le désert il devient tout noir parce qu'on passe au basalte. Et c'est très beau aussi, mais il y a toujours pas de plantes. Je connais un peu maintenant les plantes du désert parce que j'ai une fois herborisé comme ça ailleurs en Afghanistan, mais bon, il n'y a pas de plantes.
Les seules plantes qu'il y a, en fait, c'est les déchets du pétrole qui sont décomposés.
C'est ça. Et puis alors, il y a ces tourbillons qui sont si étranges, où on voit du sable qui monte comme ça, qui tourne comme un petit typhon, oui. Et puis qui vient vers vous. Alors tout d'un coup, vous êtes juste dedans, ça fait pfff, il y a du sable partout. Et puis vous sortez par l'autre bout, puis le sable s'en va. Alors, vous savez, les Hébreux, ils suivaient dans le désert du Sinaï la colonne de nuée. Alors je me dis, c'est peut-être ça, les colonnes de nuée, au fond. Et puis nous sommes en fin de journée, arrivés à Amman, qui est au fond d'une vallée. Puis nous avons traversé Amman, puis nous avons été à Jéricho, puis nous avons monté de Jéricho à Jérusalem par cette montée que faisaient les Hébreux en pèlerinage en chantant les psaumes dits des montées. Puis nous sommes arrivés à Béthanie où on a ressuscité, pas on, il.
Oui, oui, je suis bien compris. Oui. Je ne dis pas dans le coup.
Le fameux Lazare. Voilà. Puis on est arrivé aux portes de Jérusalem et là commencé l'étape suivante.
Voilà.
Merci beaucoup Jean-Marie, carnet de voyage d'un botaniste chez Fayard. Et en attendant, eh bien sûrement un peu de musique. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
C'est la musique des mots, Jean-Marie. Mais oui, la musique des mots. Vous avez parlé de Lucien. Alors Lucien, c'est un ami herboriste avec qui vous étiez. Quatrième sujet qui fait un peu écho à celui de Vanier, qui n'a pas rencontré de tigre. Eh ben nous, on va partir du côté de Washington. On va rejoindre Corinne Lane, qui est la correspondante du Monde. Et là, on se rend compte que, eh ben, on a des animaux sauvages qui envahissent les villes américaines.
Eh bien, les Américains, effectivement, commencent à trouver que leurs amis animaux sont très envahissants. Et on recense quelques 32 millions de cerfs, de biches, de cervidés dans tout le pays. Et récemment, enfin, nous sommes en plein débat là-dessus à Washington, parce que le parc national, qui est au cœur de la capitale, le Rock Creek Park, est envahi de cerfs. Il y en a à peu près une trentaine par kilomètre carré. On les voit régulièrement. C'est très étonnant et formidable à la fois de croiser des biches comme ça quand on se promène. Mais les riverains et de plus en plus loin, en fait, du parc, les gens commencent à être envahis dans leurs jardins. Sur les routes, il y a des collisions. Et donc, le National Park Service a lancé la semaine dernière un programme visant à éliminer des cerfs. Donc, ça veut dire, en fait, les tuer. La nuit tombée, donc, ils ont recruté des snipers. Le ministère de l'Agriculture a recruté des snipers qui viennent, donc, et qui ont pour mission d'abattre 106 cervidés d'ici fin mars, ce qui, évidemment, suscite beaucoup d'opposition.
Beaucoup d'émoi chez les écologistes, on imagine, oui.
Alors on se rend compte que quand même Bambi, vous citez, hein, Bambi, Walt Disney dans les années 1940 a très bien fait son boulot et c'est quand même drôlement reproduit, donc ce sont des chiffres absolument énormes pour une population de 320 millions d'habitants. Alors on parle des biches, on parle des cerfs, mais il y a aussi les loups, il y a les ours, il y a les pumas, il y a les ratons, enfin c'est énorme, hein, oui. Les bêtes se portent très très bien. Hein.
Les castors, on a trouvé des castors à côté de chez Microsoft à Redmond, près de Seattle. Ils ont cisaillé des arbres des arbres de décoration
Ah bah oui.
Qui étaient là pour faire leur barrage. Les loups aussi, bien qu'ils soient en voie d'extinction, leur population a augmenté de 610% en 50 ans. Time Magazine a fait en fait un recensement. Effectivement, les augmentations, donc sur une génération, des espèces en fait qui étaient en voie de disparition ont complètement réapparu. Donc les pumas, par exemple, dans ce qu'on appelle les mountain lions, là dans l'ouest des États-Unis, ont augmenté de 1600%. Et ça veut dire, et c'est vrai que là aussi on en voit, les gens dans des banlieues qui, il est vrai, se construisent de plus en plus loin dans les montagnes, et les gens font leur jogging et il n'est pas rare de croiser un puma. Et les ours aussi, les ours on en voit, et là aussi les ours qu'on pensait être quand même cantonnés à l'ouest, en fait les petits ours bruns sont ici dans le Maryland, en Pennsylvanie. On a une chasse maintenant, ça fait 4 ans qu'une chasse à l'ours a été rétabli entre New York et Philadelphie dans les forêts. Donc dans cet état de Pennsylvanie, le nombre d'ours est passé donc de 50 à 3500 donc depuis les années 70.
Il suffit qu'il y ait quelques arbres fruitiers, des poubelles, et là évidemment c'est un régal pour les ours qui sont des animaux opportunistes.
Oui, les ours évidemment profitent tout à fait du nouvel habitat américain, c'est-à-dire les banlieues très résidentielles, très vertes, avec des parcours nature, et puis les jardins bio, les poubelles effectivement qui débordent. Les poubelles dans l'Ouest, elles sont tout à fait, tout le monde a vu ces poubelles très cadenassées dans l'Ouest, mais ce n'était pas le cas ici dans les régions de l'Est des États-Unis, et maintenant c'est ce qui se fait. On a des photos de effectivement d'ours aux abords d'écoles dans ces régions un peu de suburban, en fait, comme on dit ici, de banlieue, de grande banlieue, où en fait les ours font les poubelles des écoles.
Ben oui, parce qu'ils veulent sûrement s'instruire, peut-être qu'il y a des cahiers comme ça, donc l'ours fait cela. Merci beaucoup Corinne Lane, donc correspondante au Monde à Washington.